And now, two pigeons bemoaning the fact you can stream DirecTV satellite-free.
You see this?
A family watching baseball on DirecTV with no satellite dish in sight.
Let's heckle them.
You call that changing the channel?
Choke up on the remote, buddy.
I hope getting all these games on DirecTV makes up for your mother not pre-chewing your sunflower seeds.
DirecTV has the most MLB games. Call 1-800-DIRECTV. Claim based on total games carried on sports networks. Sports availability varies by zip code and requires choice package. Terms and restrictions apply.
As you've probably heard by now, we've teamed up with BetMGM this season. We'll be using BetMGM lines to make all of our picks, and we'll have special offers for our listeners each week. If you haven't signed up for BetMGM yet, use bonus code THEATHLETIC, and you'll get a one-year subscription to The Athletic, plus up to a $1,500 first bet offer on your first wager with BetMGM. Here's how it works. Download the BetMGM app and sign up using bonus code THEATHLETIC. Make your first deposit of at least $10. Place your first bet on any game and claim your voucher for a one-year subscription to The Athletic. See BetMGM.com for terms. U.S. promotional offers not available in D.C., Mississippi, New York, Nevada, Ontario, or Puerto Rico. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Available in the U.S. Call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369 in New York. Call 1-800-NEXT-STEP in Arizona. 1-800-327-5050 in Massachusetts. 1-800-BETS-OFF in Iowa. 1-800-270-7117 for confidential help in Michigan. 1-800-981-0023 in Puerto Rico. First bet offer for new customers only in partnership with Kansas Crossing Casino and Hotel. Don't forget, if you haven't signed up for BetMGM yet, use bonus code THEATHLETIC and you'll get a one-year subscription to The Athletic, plus up to a $1,500 first bet offer on your first wager.
Bonjour tout le monde, bienvenue au Support Athlétique, votre podcast sur le Canadien de Montréal par athlétique.com. Je suis Marc-Antoine Godin et en ce vendredi 14 octobre, je suis en compagnie d'Arpin Basu. Bonjour Arpin.
Salut Marc-Antoine, comment ça va à Détroit?
Ça va très très bien, très très bien. Puis écoute, je suis très content parce que on entame la saison régulière du Canadien et à partir de maintenant, le Support Athlétique va être deux fois par semaine. Donc, vous avez vu que cette semaine, on n'avait pas notre podcast du mercredi comme on l'avait auparavant. Donc, à partir de maintenant, tous les vendredis, il va y avoir un épisode du Super Athlétique en français. Et à tous les lundis, il va y en avoir un en anglais. Fait que c'est ça. Alors, donc, ça, c'est, je pense que c'est une très, très bonne nouvelle pour nos auditeurs, pour ceux qui aiment nous écouter. Puis, c'est une très bonne nouvelle pour nous autres si jamais on aime s'écouter parler.
Ouais, mais honnêtement, non, mais juste pour remercier les auditeurs aussi, on ferait pas ça si vous n'étiez pas tellement fidèles et qu'on voyait effectivement qu'il y avait de plus en plus d'auditeurs à chaque semaine et on voyait qu'il y avait une demande. Alors, merci à vous tous. C'est la plus grande raison pourquoi on passe à deux épisodes par semaine, c'est à cause de la fréquence avec laquelle vous venez nous écouter à chaque semaine. Alors là, ça va être deux fois par semaine, deux pour un. Un en chaque langue à chaque semaine. Je sais qu'il y a plusieurs auditeurs qui pouvaient ou pas nous écouter en anglais ou pas nous écouter en français parce qu'ils comprenaient pas la langue. Alors là, à chaque semaine, il y aura quelque chose pour vous. Dans le fond, si vous n'aurez plus à attendre deux semaines pour avoir le podcast dans la langue qui vous convient.
C'est ça. Non, mais effectivement, c'est la seule question. C'est la seule raison parce que ma boutade qui n'était pas drôle, dans le fond, ça n'avait rien à voir. Bon, écoute, allons-y d'entrée de jeu. Le Canadien a disputé son premier match de la saison régulière mercredi soir. Victoire, défaite. Bon, c'est tant mieux pour la victoire. Je pense que ce qui était le fun et ce qu'on va chercher cette année au Centre Bell, c'est qu'on a un bon spectacle, puis que les fans aient du plaisir à aller voir les matchs, que le Canadien soit compétitif, qu'il soit dans le coup, peu importe l'issue finale. Et mercredi, je pense qu'on a été très, très bien servi avec avec vraiment un match d'ouverture qui a été haut en couleur. Et l'élément spectacle était très, très présent. Puis si ça peut être comme ça durant toute la saison, ça le sera pas probablement, mais je pense que, disons que c'était une belle façon d'entamer le calendrier avec autant de fébrilité puis d'atmosphère dans le building. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant.
Oui, c'était le fun. L'atmosphère était super cool. Puis il faut le dire, t'sais, en début de saison, une grande raison pourquoi ce match-là a été tellement divertissant, c'est que il faut le dire, là, les Leafs ont fait une tonne d'erreurs. Ils ont donné des surnombres aux Canadiens fois après fois. Et puis, Sheldon Keefe a mentionné après le match que depuis l'arrivée de Martin Saint-Louis, le Canadien, c'est une des meilleures équipes de la Ligue en transition sur le rush, comme il dit. Il a dit que c'est vraiment un des meilleurs. Il l'avait dit à ses joueurs avant le match. Et ils ont continué à faire des revirements qui ont mené à des surnoms pour les Canadiens. Alors, c'est pour ça que Sheldon Keefe était tellement déçu après le match, parce qu'il avait donné cet avertissement à ses joueurs, puis ils l'ont pas écouté. Puis, trois des quatre buts du Canadien étaient directement un résultat d'un revirement que les Leafs ont fait en zone offensive. Alors, c'est quelque chose... dans le grand portrait, c'est intéressant de voir à quel point les Canadiens a l'air d'avoir les effectifs pour effectivement faire payer cher pour ces revirements. Tu sais, avec ouais. Suzuki, Caulfield, Anderson, Gallagher, qui avait l'air d'avoir vraiment ses ailes en dessous de lui, puis un nombre de gars, Kirby Doc, mais Monahan avait l'air bien, tu sais, avec une équipe, avec des attaquants qui sont capables de patiner comme les Canadiens sont capables. Ça, c'est un aspect du jeu où ils devraient être capables de rester dans des matchs pendant à la longueur de la saison. Tu sais, il n'y aurait pas besoin... c'est pas probable qu'ils vont avoir autant de revirements et autant de surnombres match après match. C'est le début de saison, il faut se le rappeler. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir que quand ça se produit, le Canadien a les effectifs pour aller chercher des buts comme ça. Alors ça, c'est une chose à retenir de ce match-là, même si c'est pas parfaitement une représentation de comment... ou le Canadien, ou les Leafs, ou le hockey en général va se jouer en mois de décembre ou en mois de février. Mais ça, c'est un aspect de ce match-là que je retiens comme étant quelque chose qui est un peu révélateur de la façon que le Canadien va aller chercher de l'offensive cette saison.
Oui, absolument. Puis surtout que c'est beaucoup plus imprévisible en début de saison. Le hockey du mois d'octobre est toujours beaucoup moins structuré. Les équipes se cherchent un petit peu, essaient de se familiariser les joueurs les uns avec les autres. Et puis, ça joue souvent du hockey beaucoup plus ouvert qui occasionne plus de surprises. Puis, on va se le dire, le premier match du Canadien en a été une surprise. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, puis ça ouvre peut-être la porte sur plus l'avenir ou le reste de la saison davantage que sur ce premier match-là. Là. Mais j'ai trouvé ça intéressant qu'après la rencontre, Martin Saint-Louis, en parlant entre autres de Kaden Gooley, mais je pense que ça s'applique à un peu tout le monde, a remis un petit peu en perspective la performance du Canadien mercredi soir en disant, écoutez, là, c'est un match qui était très élevé au niveau de l'émotion, mais ça ne sera pas tout le temps comme ça. Puis l'important, ça va être la façon dont le Canadien va performer, de la façon dont les joueurs vont performer lorsque on va être de retour dans un contexte davantage de normalité, dans un contexte. En anglais, on appelle ça les dog days, hein, les moments du calendrier où on ne voit plus le début de la saison, on ne voit pas non plus les différents jalons, que ce soit la pause du match des étoiles ou le bye week de chaque équipe, que ce soit la date limite des transactions ou la fin de la saison régulière. Puis on est comme dans une espèce de creux de vague, puis on fait juste passer les matchs dans le calendrier un après l'autre. T'sais, à la fin novembre, c'est souvent un moment comme ça. Des fois, au mois de février, on a cette sensation-là également. Et ça va être des moments, dans les moments entre guillemets, de normalité, comme l'a appelé Martin Saint-Louis, où il va avoir la véritable mesure de son équipe, dire bon, « OK, les joueurs, dans un contexte comme celui-là, ils sont capables de me donner ceci, ceci, cela. » Uh-huh. Alors effectivement, je pense qu'au fil de la saison, ça va être intéressant de voir dans des matchs beaucoup moins émotifs que celui de mercredi face aux Leafs, de quelle façon le Canadien va se comporter. Mais c'est sûr que On peut pas ne pas être emballé par la façon dont, entre autres, certains des jeunes joueurs se sont comportés.
Ouais. Puis en fait, Martin il parlait de tous les jeunes joueurs. T'sais, il dit ce que je veux voir des jeunes. T'sais, alors c'est comme, puis effectivement, l'alignement de mercredi et l'alignement pour les prochains matchs va être décidément jeune. Alors s'il veut voir des choses de ces jeunes, il va en avoir pour quelques matchs en attendant que Joel Edmondson et Mike Matheson soient capables de retourner.
Exact. Écoute, donc aujourd'hui, dans le cadre du podcast, il y a deux éléments en particulier qu'on voulait aborder. Tout d'abord, en revenant sur le match de mercredi, on voudrait attirer votre attention sur la cérémonie qui a entouré, en fait, la présentation des joueurs et l'accueil réservé à Carey Price. Donc, tu as eu l'occasion de t'entretenir avec Carey Price. Je pense que c'est assez incontournable qu'on aborde ce sujet-là aujourd'hui. Et sur le réseau de The Athletic, on a plusieurs collègues qui se sont penchés, qui se sont amusés à faire des prédictions audacieuses pour la saison qui vient. Nous, on ne le fera pas de façon écrite, mais c'est tout à fait correct, je pense, et à propos qu'on puisse débattre un petit peu puis qu'on fasse une discussion sur justement certaines prédictions qu'on voit pour cette équipe-là au fil de la saison qui vient. Donc ça va être en deuxième moitié d'émission, on va s'attarder à ça. Mais écoute, j'aimerais ça que tu nous dépeignes la scène un petit peu... dépeigne? Ça a l'air un petit peu bizarre. Ça a l'air de quelqu'un qui est décoiffé. Mon Dieu, je sais pas. En fait, je veux pas que tu nous peignes sur la scène non plus.
Décris-nous
la scène, c'est ça. Ou le portrait par rapport à Carey Price, tu as eu l'occasion donc de lui parler récemment. Il était en route pour aller chasser dans la région de Granby. Ouais. Et puis, c'est ça. Donc... J'aimerais ça que tu nous donnes tes impressions sur comment tu l'as senti, son ton de voix, etc. Et que tu, pour le bénéfice des gens qui n'ont pas eu l'occasion de lire ton article, qu'on explore un petit peu qu'est-ce qui fait que Carey Price est à l'écart du jeu, puis qu'est-ce que c'est exactement l'état de son genou à l'heure actuelle?
Oui, en fait, j'ai rejoint Carey Price au téléphone mardi matin. Il était de très bonne humeur. En fait, il allait à la chasse. C'est quelque chose qu'il adore faire. Alors, j'imagine que ça contribuait à son bonheur. Mais alors, il était dans l'auto. Et il était super relax, ouvert. Il était prêt à parler. Et on a discuté de l'état de son genou, l'état de son santé. Puis, tu sais, son mood, son vibe, si tu veux, ça allait complètement contre cette situation-là, parce qu'en parlant de son genou, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Tu sais, le genou, il continue à avoir de l'enflure juste dans sa vie quotidienne. Là. C'est juste en faisant ces choses qu'il fait à chaque jour, les choses normales. Des fois, le genou va se mettre à enfler. Il y a un peu de douleur quand il monte ou descend des escaliers. Bref, tout porte à croire que si ça continue comme ça, il jouera jamais encore au hockey. Puis ça, c'est quelque chose sur lequel il était très clair. Lui, il espère toujours qu'il y aura une amélioration à son genou. Mais il avait pas l'air tout à fait prêt à subir la chirurgie qui a été proposée pour essayer de corriger cet aspect-là. Alors, effectivement, pour les auditeurs qui n'ont pas lu le texte, dans le fond, la situation de Carey Price, c'est qu'il y a comme un trou dans le cartilage. Les termes médicaux, je ne suis pas très bilingue. Là.
Oui, c'est ça. C'est un trou dans le cartilage de son genou, là,
ouais.
À l'endroit où, finalement, le genou s'appuie.
Oui, c'est ça. Où le genou plie, dans le cartilage, il y a un trou. Alors, ce qu'il propose faire, c'est de prendre du cartilage et de l'os d'une autre partie de son genou, une partie qui est un peu moins taxée, moins sous moins de pression.
Ouais.
Prendre cette boue-là, l'enlever, puis plugger le trou dans son genou avec ça. Alors, disons que c'est pas quelque chose qui est très simple. C'est pas quelque chose qui va prendre quelques semaines à se rétablir. Ça va prendre un long temps à se rétablir si jamais Carey Price décide de faire ça. Et en plus, le taux de succès là-dessus est à peu près 3 fois sur 4. Et ça, c'est pour quelqu'un qui n'a jamais eu une chirurgie sur son genou, ce qui n'est pas le cas de Carey Price. Ça, c'est pour quelqu'un juste pour rétablir une vie normale, juste pour être capable d'effectivement monter les escaliers, descendre les escaliers sans douleur, pour être capable de jouer avec ses enfants, d'être capable de juste faire ce que tu fais dans une journée normale. C'est ça la barre, c'est ça comme le seuil qu'il cherche pour déterminer si c'est un succès ou non. Mais le seuil pour Carey Price est beaucoup plus haut. Tu sais, c'est comme ça, c'est un gardien de la Ligue nationale. C'est le style papillon. C'est un gros bonhomme qui met tout ce poids-là sur ses genoux 30-40 fois par match et 60-70 fois par entraînement. Alors, pour lui, ces chiffres-là n'ont pas beaucoup de sens pour lui. Tu sais, c'est comme là, parce que là, fort probablement que tu parles d'un taux de succès de peut-être pour lui, un taux de succès pour lui, plus vers 60%. Peut-être, ils ne savent même pas c'est quoi le pourcentage. Alors, pour lui de subir quelque chose où c'est tellement flou ce qui peut arriver si tout va bien, et effectivement, il y a une forte chance que tout n'irait pas bien, qu'à mon avis, écoute, il n'a pas dit que je refusais absolument de faire cette chirurgie-là, mais en lisant ses propos et en entendant ce qu'il disait, j'avais pas l'impression que c'est quelque chose qui était acceptable pour lui. Tu sais, alors... Puis, en plus de ça, c'est que le fait que, en ce moment, oui, il y a un peu de douleur en montant, descendant les escaliers, mais en général, il est capable de vivre sa vie quand même bien. Il est capable de faire ce qu'il veut faire, il est capable d'aller chasser, il est capable de faire des choses sans trop de douleur. Alors, il est comme plus ou moins satisfait avec l'état de son genou pour sa vie quotidienne en ce moment. Mais si tu fais cette chirurgie-là, il y a une possibilité que cet aspect-là, tu vas nuire à ça. Alors, il y a beaucoup d'aspects pour lui, mais je trouve que même s'il n'est pas prêt à dire que je ne jouerai jamais encore, il va continuer à aller voir les thérapeutes à Brossard à chaque jour. Il va continuer à essayer de réhabiliter le genou d'une façon un peu plus naturelle avec le temps puis avec le traitement, en espérant qu'un peu un miracle, le genou soudainement se met à se rétablir tout seul, mais pas tout seul, avec tout le travail qu'il va faire pendant la saison. Et que peut-être, en faisant ça, le genou pourrait se rétablir à un point où il serait capable de jouer, mais les chances, je pense que lui est très conscient que les chances que ça arrive sont très petites. Et je pense que dans sa tête, il est prêt à l'éventualité un jour qu'il a peut-être joué son dernier match en Ligue nationale.
Moi, je pense que c'est l'acceptation, c'est un long deuil pour un athlète. Là. Je pense, j'ai entendu dire que Shea Weber, de son côté, ne voulait pas encore s'exprimer en disant « je suis retraité, ma carrière est terminée ». C'est des mots qui sont difficiles à prononcer et puis une idée qui est difficile à se faire pour certains athlètes qui ont joué en dépit de la douleur pendant longtemps, puis qui sont habitués à composer avec ça, puis qui se disent « je vais revenir ». Mais là, écoute, je pense que quand on prend un pas de recul, ça devient assez évident, je pense, évidemment, non seulement dans le cas de Weber, mais aussi dans le cas de Price, mais ça, il m'apparaît, en lisant ses propos, puis tu me dis aussi, tu l'entendais un peu dans sa voix, il y a une certaine... certaines paix d'esprit par rapport à ça. Peut-être que le processus
était
pour
serein,
lui...
Là. Ouais, il disait ça avec une certaine sérénité. Là. Il était comme... C'est quelque chose qu'il avait l'air d'avoir accepté. C'est pas quelque chose qui... J'entendais pas beaucoup de peine dans ses propos. Tu sais, c'est comme, ça lui fait de la peine qu'il est pas capable de jouer, mais il est aussi capable de voir sa carrière et voir tout ce qu'il a accompli. Tu sais, la seule chose qui lui manque, c'est une Coupe Stanley. Mais à part ça, il a pas mal tout fait. Tu sais, médaille d'or aux Olympiques, médaille d'or au World Cup, aux Coupes du Monde, médaille d'or au championnat junior, trophée Hart, trophée Vezina, trophée Pearson, ou en fait c'est Lindsay maintenant, je m'excuse, qui est comme vraiment le trophée le plus prestigieux pour les joueurs, parce que c'est les joueurs qui votent là-dessus. Et pendant une période de temps, et ça, c'est pas lui qui l'a dit, mais c'est moi qui le dis depuis toute cette affaire-là, c'est que pendant une période de temps, peut-être 3, peut-être 4 ans, Carey Price était... Tu pouvais faire l'argument que Carey Price était le meilleur joueur au monde. Tu sais, peut-être que tout le monde serait pas d'accord. En fait, c'est certain que tout le monde serait pas d'accord, mais pendant cette période-là, d'arguments se faisaient très bien. Que c'était le joueur le plus dominant au monde. Et ça, c'est... Il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont capables de faire cet argument-là. Dans l'histoire du hockey, il y a comme juste un certain nombre de joueurs qui peuvent dire que oh, pendant 3-4 ans, j'étais le meilleur joueur au monde. Ça, c'est rare. Alors, je ne sais pas si Carey Price réalise ça, mais à mon avis, il réalise que même sans Coupe Stanley, puis il a vu plusieurs de ses collègues prendre sa retraite récemment avec la même situation, Henrik Lundqvist, Roberto Luongo. Il y en a plein de gardiens qui n'ont jamais gagné une Coupe Stanley, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont connu des mauvaises carrières. Puis je pense que Carey Price, il réalise que la même chose s'applique à lui. Là.
Mais tu parlais du fait qu'il y avait un trou dans son genou. En le soignant puis en le traitant, etc., le trou, il ne se comblera pas tout seul. Penses-tu que lui cherche à savoir comment c'est arrivé? Parce que les partisans aiment revenir à l'histoire de Chris Kreider. La fameuse, ouais. Le fameux contact qui l'a sorti d'une finale de conférence. Et puis, mais par la suite, il ne faut pas oublier que ça s'est produit avant la saison de feu où Price a raflé le trophée Hart. Mm-hmm. Mais c'est peut-être aussi la genèse de ses ennuis au genou. Puis si jamais il y a eu quelque chose qui était dégénératif par rapport à ça, peut-être que ça a été le point de départ. Est-ce que tu sens que lui... cherche à savoir où ça a pu commencer?
Ben, nous, on n'a pas abordé ce sujet-là. Je pense que... Ben, j'en ai déjà parlé avec lui par le passé, parce que dans le fond, c'est pas... Depuis ce temps-là, il y a eu plusieurs problèmes avec ses genoux.
Ouais.
Puis... C'était pas... J'avais pas l'impression que c'est quelque chose... T'sais, lui, quand il pense à cet incident-là, il pense pas à son genou, il pense à l'opportunité qu'il a manqué d'aller gagner une Coupe Stanley. C'est ça qui cause le plus de peine dans sa tête quand il pense à ça, c'est que non seulement lui, mais plusieurs membres de cette équipe-là étaient convaincus qu'il y avait l'équipe pour aller remporter la Coupe Stanley, grandement à cause du fait que Carey Price était vraiment au sommet de son art, puis était un joueur qui pouvait remporter une série tout seul. Alors, dans le fond, tu sais, les Kings étaient vraiment dominants cette saison-là, et tu regardes tous les chiffres, tu regardes toutes les faits, toutes les données disponibles pour essayer de prédire qu'est-ce qui aurait arrivé si le Canadien affrontait les Kings cette saison-là. Et je pense pas que tu pourrais faire un bon argument que les Kings perdraient contre le Canadien, sauf que tu avais Carey Price. Et Carey Price était capable d'avoir un impact sur une série, avoir un impact sur la confiance de ses coéquipiers. Il y avait plusieurs... d'autres choses, à part arrêter la rondelle que Carey Price amenait aux Canadiens quand il était à son meilleur. Alors, je pense que, tu sais, déjà, si tu lis les commentaires dans le texte de Price que j'ai écrit mardi, ou mercredi, je veux dire, il y en a plusieurs qui mentionnent Kreider là-dedans. Et c'est normal. C'est une blessure qui a comme causé une série de blessures depuis ce temps-là. Et c'est fort probable, possible, je sais pas, que ça, tout ça a été déclenché par cet événement-là. Mais j'ai jamais eu l'impression que Carey Price pense trop à ça. Peut-être que je me trompe parce qu'on n'en a pas parlé. Mais quand lui, il pense à ça, il pense vraiment à l'opportunité d'aller remporter une Coupe Stanley qu'il n'a pas eu. À cause du fait qu'il a pas joué un autre match dans cette série-là. Puis en plus, je pense que c'est Brendan Gallagher qui me l'a dit, puis en fait, j'aurais dû demander à Carey Price, mais l'équipe avait l'impression que si le Canadien était capable de battre les Rangers dans cette série-là, Carey allait jouer dans le premier match de la finale, cette saison-là.
Ah oui?
Ouais.
OK. Oh, mais ça aurait changé la donne.
Ouais, c'est ça.
Ouais. Ben écoute, moi, Je pense que, tu sais, si on fait le lien avec le match d'ouverture puis la présentation des joueurs, ça a été tellement une belle occasion de pouvoir saluer Price, parce qu'évidemment, tout le monde comprend quelle est la situation puis devant quoi Price se retrouve. Et à ce titre-là, toute l'organisation semble prête à passer au prochain appel. Mais ça a donné l'occasion aux partisans de le saluer, de le remercier. Ça a été un moment qui, à mon sens, a été beaucoup trop bref. Évidemment, c'est dans le contexte d'une présentation des joueurs qui était déjà en elle-même assez longue. Mm-hmm. Alors, prenez note, Canadiens de Montréal, dans votre organisation, dans votre mise en scène d'avant-match, l'année prochaine, faites-les pas marcher dans un tunnel interminable comme ça, parce que c'est le double du temps, puis c'est pénible. C'est pénible. Il y a moyen de raccourcir ça, hein, le petit écran lumineux sur le côté avec le numéro, c'est bien cute, mais c'est un gadget qui n'était pas nécessaire. Alors, on roule, hein? L'année prochaine, on roule.
Mais
sauf que, en même temps, ça a donné une image extraordinaire, et à mon sens, empreinte de symbolique et de nostalgie aussi, c'est que la longueur du tunnel a fait en sorte que quand Price est reparti avec son chapeau de cowboy et qu'on l'a vu quitter, puis qui disparaît un petit peu avec la fumée qui s'accumulait. Il avait vraiment l'air, tu sais, du cowboy qui disparaît au soleil couchant. Puis, tu sais, c'était... je trouve que ça représentait bien qui est Carey Price, puis l'image qui colle avec la fin de sa carrière. Puis ça a été un moment émotif. Honnêtement, j'ai un peu retenu mes larmes durant ce moment-là. Je ne suis pas ce genre de gars-là normalement, mais il faut être capable de se laisser prendre au jeu puis de se laisser toucher. Puis je pense que quand on est sur place aussi, on a toujours une meilleure mesure aussi du bruit ambiant. Puis c'était... L'ovation de la foule était pas seulement... C'est pas seulement qu'elle aurait pu durer plus longtemps si Price avait pas déterminé lui-même que bon, je pense que ça suffit, c'est pas moi qui est en vedette ce soir, c'est pas moi qui joue, fait que bye bye. Mm-hmm. C'est que le volume était très élevé et je pense que c'était le fun aussi de le voir dans un contexte où il n'y avait pas son masque, puis tu pouvais voir l'appréciation dans ses yeux, puis l'émotion que ça lui. Qui était transmis sur son visage. Et moi, ouais, ça a été au milieu de présentations qui ont été trop longues, ce moment-là, lui, a été trop court.
Oui, et en fait, honnêtement, deux choses là-dessus. En fait, sur la présentation aussi, mais tu sais, c'est... Écoute, tout le monde aime recevoir l'amour de la foule. C'est pas vrai qu'il y a quelqu'un qui aime pas ça. Mais il y en a quelques-uns qui sont plus confortables avec que d'autres. Puis je pense qu'à un moment donné, Carey Price, il se sentait peut-être anxieux ou juste, il était seul à être debout pendant que 20 000 personnes étaient en train de se rendre son nom puis l'applaudir. Puis je pense qu'à un moment donné, il se sentait pas confortable parce que c'est pas son genre. C'est quelqu'un qui aimait ça. T'sais, tu te rappelles-tu, pendant toute sa carrière, Carey Price est un des seuls gardiens de la Ligue qu'au moment des hymnes nationaux, lui, il reste pas dans son filet, il s'en va avec ses coéquipiers sur la ligne bleue pour écouter les hymnes nationaux. C'est quelqu'un qui était un gars d'équipe et être seul à recevoir cette ovation-là qui était très touchant, j'avoue, puis c'est aussi, j'imagine, très touchant pour lui, puis en fait, ça se peut qu'il est parti parce qu'il était sur le point de pleurer aussi, ça se peut, mais c'est un gars qui, en général, aimait pas ça, avoir les accolades individuelles à chaque fois, tu sais, pendant ses meilleures saisons, il disait tout le temps, ah, les joueurs jouaient tellement bien devant moi, pendant des années où c'était juste vraiment faux, tu sais, il y avait pas d'équipe devant lui, et il continuait à dire, ah, les défenseurs ont bloqué beaucoup de tirs, blablabla. Mais, alors ça, c'est une chose. Et une autre chose, juste en allant plus loin sur ton petit métaphore d'un cowboy qui part au coucher de soleil, là, c'est, tu sais, on a tous les deux, là, on l'a remarqué, mais le vidéo d'avant-match, pour la première fois de ma mémoire, le Canadien a fait quelque chose qui valorisait le Centre Bell, qui valorisait l'état moderne l'art moderne du Canadien.
Oui,
ils ont reconnu leur passé, tu sais, avec un truc Original One, là, qui était, je sais pas, c'était un peu osé, mais anyhow, ils disaient que, tu sais, on est l'équipe originale, mais c'est vrai, ils sont le plus vieux équipe de la Ligue nationale. Mais après ça, ils ont fait une autre vidéo en disant, en célébrant l'histoire du Centre Bell, même sans Coupe Stanley, sans avoir rien gagné dans cet édifice-là, puis effectivement, sans avoir les fantômes du Forum, ils ont fait une présentation en disant, non, ça c'est nous, on joue ici, C'est un des meilleurs arénas de la Ligue. Les joueurs adorent jouer ici. Alors nous, on va le valoriser. C'est pas juste le forum où il y a des choses cool qui se passent avec cette organisation-là. On a créé beaucoup de mémoires ici. Alors, on fait une vidéo célébrant le Centre Bell, puis je l'applaudis parce que c'est grand temps que cette équipe-là, cette organisation-là, écoute, ils ne devraient jamais oublier leur passé parce que c'est la concession avec le plus de succès de la Ligue nationale. C'est la meilleure organisation de hockey au monde et c'est reconnu comme ça. Mais c'est devenu temps de vraiment de vivre dans le présent un peu. Et je trouve que cette vidéo-là, c'était comme une façon de faire ça. Puis je trouve que c'est une bonne chose. Alors, dans le fond, si vous allez assister à un match au Centre Bell cette saison, vous allez voir la vidéo. Puis je suis sûr que tu peux le voir sur le site web du Canadien. J'ai pas checké. Mais je trouve que c'est une belle initiative de finalement faire quelque chose qui parlait de notre ère du hockey canadien.
Oui, c'est pas assez récent.
C'est ça. C'est pas assez récent que... c'est pas 4 coupes Stanley de suite, c'est pas 5 coupes Stanley de suite, mais quand même, il y a des choses qui sont passées pour cette génération de partisans que cette organisation doit commencer à mettre, non seulement célébrer, mais mettre l'emphase là-dessus. C'est que ça, c'est notre équipe, ça, c'est nous, et on va le célébrer.
Ben, c'est parce qu'il faut aussi que tu t'adresses au public qui s'est déplacé au Centre Bell pour assister au match, puis quelle est la proportion de ces gens-là qui ont un souvenir d'avoir vu jouer Serge Savard puis Guy Lapointe. Mm-hmm. Tu sais, il y en a de moins en moins. Mais par contre...
C'est ça qui était intéressant dans la vidéo, c'est qu'il dit, tu te rappelles-tu? Tu te rappelles-tu quand 5-0 est devenu 6-5? Tu sais, c'est des choses que les personnes dans le full peuvent dire, ah oui, je me rappelle de ça.
Oui, puis de voir des images de Yaroslav Halak, des images de Piqué Subban dans l'uniforme du Canadien, tu sais, il y a pas... jusqu'à récemment, ça aurait été un peu... Un petit peu controversé de le faire.
Le changement de régime a aidé ça, je pense.
Absolument. Puis tu sais, des petits moments qui sont des clins d'œil de « Ah oui, ça, c'était le fun », tu sais... Les moments d'Alex Kovalev sans casque ou Eric Cole qui a marqué un but puis qui a fait un high-five à l'arbitre.
Après, c'est
impayable. Fait que tu sais, des petits moments comme ça, c'est bien qu'ils soient soulignés parce que il y a l'histoire grandiose sur laquelle l'équipe est bâtie. Puis je pense que c'était ça le but de dire, ben on est l'équipe originale. Mais au bout, dans le dernier chapitre, qui s'est écrit dans un édifice qui s'appelle le Centre Bell, que le Canadien doit occuper encore mieux qu'il ne l'a fait jusqu'à maintenant. Puis je pense que c'est une des raisons pour lesquelles Martin Saint-Louis veut faire les entraînements matinaux le matin des matchs au Centre Bell. Il dit « Je veux qu'on passe plus de temps dans notre aréna parce que c'est chez nous puis il faut qu'on l'occupe davantage, ce building-là.
Ouais. » Il faut le connaître davantage aussi.
Parce que il y a eu tellement de roulements que Brendan Gallagher le connaît, Jonathan Drouin le connaît, sauf qu'il y a tellement de nouveaux joueurs que les petites familiarités, les petits détails propres au Centre Bell, c'est peut-être pas tous les joueurs qui sont familiers avec ça. Mais oui, ça c'était quand même assez chouette comme vidéo de départ. Bon, écoute, Carey Price, on va le dire, c'est le passé. Regardons vers l'avenir. Vers la saison qui s'en vient. Et Harpin, je vais te lancer sur des sujets sur lesquels on va pouvoir débattre, des thèmes ou encore simplement des chiffres à échanger et à tester l'un par rapport à l'autre. Alors, je vais y aller d'un premier sujet pour une prédiction pour la saison qui s'en vient. Et... en fait, elle va concerner deux joueurs. On a Cole Caulfield qui a marqué ses deux premiers buts de la saison mercredi soir, qui pourrait très bien aller chercher une quantité intéressante de buts cette année. Puis on a Brendan Gallagher qui a démontré qu'il avait un élan dans les jambes qu'il n'avait absolument pas l'année dernière, puis peut-être même on pourrait dire la saison précédente non plus. Il a raté une belle opportunité de marquer lors d'une échappée, il a touché le poteau. Mais il pourrait lui aussi marquer plus de buts qu'il en a marqué dans les deux dernières années. Fait que je te demanderais de te commettre, autant pour Cole Caulfield que pour Brendan Gallagher. Combien de buts vois-tu ces deux joueurs-là marquer la saison prochaine? Ou cette saison, en fait.
Cette saison, mais Cole Caulfield, je pense qu'un but réaliste, ce serait 35.
OK.
Je sais qu'on était supposé comme être un peu plus osé, mais je trouve que 40, c'est un peu plus, peu trop haut pour lui. Il va connaître des hauts et des bas, comme tous les marqueurs le font. Alors même s'il va dans un stretch où il marque 5 buts en 7 matchs, c'est clair qu'il va passer 5-6 matchs sans marquer. Alors moi, je pense 35. 35, c'est ce que je pense vraiment qu'il va être capable de faire. Et pour Brendan, honnêtement, tout au long du camp d'entraînement, puis c'est allé vraiment un peu inaperçu. C'est comme, on le voyait dans les entraînements, on le voyait à chaque fois qu'il jouait des matchs préparatoires, puis on l'a vu contre les Maple Leafs, mais il y a vraiment ses jambes sont de retour. Et comme on l'a entendu à notre podcast au dernier épisode, il se sent vraiment renouvelé un peu. Il a travaillé très fort pendant la saison morte. Il a expliqué à quel point c'était pas juste des étés courts les deux années précédentes, c'était des étés extrêmement courtes, historiquement courtes, des étés que la Ligue nationale avait jamais vu auparavant, et ça l'a affecté. Alors moi, je pense que 30, ce serait trop haut, mais moi, je pense que 20 est dans sa mère. Alors moi, je dirais 22 pour Gallagher.
Bon, écoute, moi, c'est peut-être le biais de récence qui m'influence, c'est du fait d'avoir vu Cole Caulfield marquer 2 buts lors du premier match. Mais je pense, moi, qu'il peut atteindre le plateau des 40. Parce que, écoute, faut se rappeler, je comprends que le Canadien jouait sans pression la saison dernière, sous les ordres de Martin Saint-Louis, puis ça a été, comment je pourrais dire, il n'y avait pas... on a vu un Cole Caulfield qui était plus libéré qu'il ne l'était sous les ordres de Dominique Ducharme. Mais quoi qu'il en soit, à partir du moment où Martin Saint-Louis a pris les guides du Canadien, Cole Caulfield a fait 22 buts en 37 matchs, ce qui, sur une saison de 82 matchs, correspond à plus de 48 buts. Là. On est entre 48 et 49 buts, ce qui me paraît excessif. Mais je pense que un des aspects qui pourrait changer pour le mieux cette année, c'est l'avantage numérique également. Sur les 22 buts que Cole Caulfield a marqués justement à partir de l'embauche de Martin Saint-Louis, il y en avait seulement 5 qui ont été marqués avec l'avantage d'un homme. Puis j'ai l'impression que l'avantage numérique devrait être un peu meilleur cette année puis permettre justement à faire en sorte que la production de Caulfield paye de ce côté-là. Que ce soit parce que si l'adversaire triche trop vers lui, ça va ouvrir tout le cercle droit pour Nick Suzuki. Si jamais on trouve le moyen de mettre, pour une raison ou une autre, Mike Hoffman de l'autre côté et que Suzuki est placé à un autre endroit sur le jeu, t'aurais deux gâchettes de premier plan sur la même unité. Je crois qu'il y a je pense que c'est l'année où le Canadien va finalement trouver un peu une solution à son avantage numérique et faire en sorte que même si l'adversaire essaie de tricher vers Cole Caulfield, son tir est suffisamment dangereux, il dégaine assez rapidement pour pouvoir déjouer ça. Puis je pense que ça va l'aider à atteindre un haut total de buts. Donc moi, j'oserais me rendre jusqu'à 40 avec Cole Caulfield. Tu parles de 22 buts pour Gallagher. Écoute, on est exactement dans les mêmes eaux par rapport à Gallagher. Donc, je même pas à un ou deux buts près, je pense que 22 buts, c'est tout à fait envisageable. Et sais-tu quoi? Si jamais Gallagher réussit à avoir 22 buts, ça va être considéré comme une excellente saison pour lui. Parce que je ne pense pas, même s'il a connu deux saisons de suite de plus de 30 buts en 2017-18 et en 2018-19, la saison suivante, il était sur un autre rythme de plus de 30 buts, mais il a joué seulement 59 matchs. Mais il n'est probablement plus ce joueur-là. Alors, je ne m'attends plus à ce que Brendan Gallagher marque 30 buts par année. Sauf que si, on parle beaucoup de production secondaire, de production complémentaire dans le hockey, je pense que Gallagher peut être un gars qui peut aider son équipe à ce niveau-là. Puis... Et s'il réussit à marquer 22 buts au courant de la saison, ça va être, il va avoir vraiment fait son travail parce qu'il peut être utile de plusieurs manières sans nécessairement marquer un but. Puis je ne pense pas que cette année, le problème du Canadien, ça va être de marquer des buts. Ça va être surtout d'en prévenir. Et je m'attends à ce qu'il y ait plusieurs matchs qui finissent par des défaites de 5 à 3.
T'sais. En fait, moi, je vais ajouter une autre prédiction concernant Bernie Gallagher. En carrière, sa meilleure saison pour les passes, en fait, sa meilleure saison tout point, c'était en 2017-18, 31 buts, 23 passes, 54 points. Alors, 23 passes, c'est son sommet en carrière. Moi, je vais prédire qu'il va avoir 35 passes cette saison.
Wow!
Non, 35. Ouais. Parce qu'une chose que j'ai vue depuis le début du camp d'entraînement, puis on l'a vu, le but qu'il a préparé pour Kirby Dach à Buktush, si je ne me trompe pas, mais peut-être à Gander, en tout cas, dans ces deux matchs-là. Et tout au long du camp, puis on l'a vu, contre les Maple Leafs, Brendan Gallagher veut devenir un meilleur passeur, puis il a travaillé là-dessus, puis il réussit des passes qu'il voyait même pas par le passé. Alors, non seulement qu'il les voit, mais il est capable de les réussir, et je pense qu'au fur et à mesure de la saison, ça, c'est un des aspects que Martin Saint-Louis voulait que Brendan ajoute à son jeu. Et alors, moi, je pense que il va devenir un meilleur fabricant de jeu. Pour deux raisons. Premièrement, parce qu'il aime le fait d'ajouter quelque chose à son jeu. Puis la deuxième chose, c'est que c'est pas vrai que Brendan Gallagher peut aller à chaque présence devant le filet, prendre l'abus qu'il reçoit là, soir après soir, présence après présence. Il est plus capable de faire ça avec la constance avec laquelle il le faisait avant. Il va encore le faire, c'est certain, mais il doit trouver d'autres façons d'être efficace. Puis je pense que devenir plus un fabricant de jeu, c'est quelque chose qu'il vise faire. Alors, 35, c'est peut-être un peu haut.
Oui, je suis d'accord.
Je vais aller à 30.
T'es optimiste.
Ouais.
T'es optimiste.
Mais 30, ouais. 30, je pense qu'il va être capable de le faire parce qu'il a la volonté. Tu sais, il n'a jamais... Il était vraiment un horrible passeur la plupart de sa carrière. Et je pense que c'est quelque chose qu'il veut vraiment améliorer cette saison. Alors, on verra s'il est capable. Mais ça c'est une prédiction qui est un peu plus osée.
Oui. Absolument, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais écoute, mais si tu me dis tout simplement, écoute, il va atteindre un sommet personnel au chapitre des mentions d'aide, ce serait déjà... je serais prêt à le croire. Parce qu'effectivement, tu sais, Martin Saint-Louis parle beaucoup du fait que peu importe leur âge, les joueurs peuvent continuer de s'améliorer puis d'ajouter des choses à leur jeu. Puis je pense que... Puis il a ciblé en particulier Brendan Gallagher par le passé. Puis je pense que ça, c'est un élément du jeu que Gallagher peut s'améliorer puis essayer d'améliorer sa vision du jeu et aussi trouver s'il réussit à développer des affinités avec ses compagnons de trio. On voit que depuis le début du camp d'entraînement, il y a des affinités qui m'étonnent un petit peu avec Christian Dvorak, mais ça fonctionne. Ils sont très complices au niveau du give and go. Ils font plusieurs échanges. En français, on dit le passe-va. Je pense que c'est une technique qui le sert bien pour pouvoir améliorer le jeu de transition puis pouvoir faire avancer la rondelle. Puis probablement que si des jeux construits de cette manière-là aboutissent sur des buts, ben ça pourrait le servir également à augmenter sa quantité de mentions d'aide. Mm-hmm. Pour... chez The Athletic, on a demandé à... aux journalistes qui couvrent toutes les équipes de la Ligue nationale de proposer une prédiction audacieuse concernant l'équipe qui couvre. Et puis, nous, on a décidé d'y aller avec Caden Goalie et en disant que Caden Goalie allait terminer, en fait, dans la course au Trophy Calder. Top 5? Top 5 dans le Trophy Calder?
On s'est dit top 5, ouais.
Top 5. Fait que c'est un petit peu, considérant qu'il y a quand même des joueurs de haut profil comme Owen Power et Mason McTavish en tout premier lieu qui, à mon avis, partent favoris pour la course au Trophy Calder. Il y en a un qui risque d'être rapidement un joueur dominant à sa position et l'autre qui devrait se mettre à accumuler des points quand même assez tôt dans sa carrière. Ils partent avec une longueur d'avance, puis Caden Goalie est probablement pas le genre de joueur qui va aller chercher beaucoup de points, surtout pas tôt dans sa carrière. Mais je pense que le simple fait que le Canadien a un urgent besoin de défenseur, besoin de se tourner vers quelqu'un pour manger des minutes et que lui a un style de jeu qui est déjà très mature pour la Ligue nationale. Il a été le joueur le plus utilisé par le Canadien lors du premier match avec 22 minutes 34, si je ne m'abuse. Il va avoir beaucoup d'action. Puis je pense que plus il va être sur la glace, oui, ça va peut-être faire mal à son différentiel, mais en même temps, plus il va montrer aux gens, espérons-le à travers la Ligue nationale, que même s'il n'épate pas par ses statistiques, le fait qu'il soit si utile aux Canadiens et qu'il soit si souvent sur la glace puis qu'il montre du bon jeu, ça devrait être suffisant pour qu'il aille chercher peut-être des votes de quatrième place, des votes de cinquième place. Et je pense que c'est pas farfelu. Si les gens disent « Ah ben Jake Sanderson pourrait être un candidat au titre de recrue de l'année de la Ligue nationale », ben s'il y en a qui envisagent Jake Sanderson, pourquoi pas Caden Gooley, tu sais?
Ben en fait, ce qui avantage Gooley là-dedans, c'est que, tu sais, le Canadien, les victoires, ils l'ont déjà dit, ça importe pas cette saison. Alors, c'est sûr que quand Edmondson et Matheson reviennent, que le temps de glace de Gooley va descendre un peu. Mais moi, je suis de l'avis que le plus la saison progresse, le plus que les entraîneurs vont voir que non, ce gars-là, il a besoin de minutes. On a besoin d'avoir ce gars-là sur la glace plus souvent. Puis le plus confortable qu'il va devenir, parce qu'écoute, son match n'était pas parfait contre Toronto, mais quand même, il a été affronté contre le trio d'Austin Matthews, puis ce trio-là n'a pas fait grand-chose. T'sais, ils ont créé quelques chances, mais il s'est quand même débrouillé bien contre, honnêtement, un des top 3 trios de la Ligue. C'est pas rien, là. Le meilleur buteur de la Ligue est... Beaucoup pourraient faire l'argument le meilleur joueur de la Ligue. Alors, je trouve que à un moment donné, Gooley va convaincre le monde que c'est pas nécessairement Edmondson qui doit aller dans toutes les situations difficiles. C'est pas nécessairement Matheson qui doit aller dans toutes les situations difficiles que Gooley peut en prendre lui-même. Alors, je pense qu'au cours de la deuxième moitié de la saison, on va voir les minutes commencent à grimper pour Caden Gooley, peu importe l'état de santé de la brigade défensive. Et c'est un peu la même façon que Moritz Seider a été dans le course pour le Calder pendant son année recrue, c'est qu'il jouait avec une mauvaise équipe. Il s'en foutait un peu s'il gagnait des matchs, mais il voulait donner des minutes à leurs jeunes. Et lui, il a pris toutes ces minutes-là, puis il a continué à en prendre. Et je pense que Gooley pourrait... probablement pas produire offensivement comme Seider l'a fait, mais dans le sens où juste prendre les minutes et montrer qu'il est capable de les prendre, puis après en prendre plus et plus, c'est quelque chose que je pense qu'on pourrait voir dans son cas au cours de la saison.
Et Maurice Seider a fait 50 points à son année recrue, c'est incroyable.
Ouais, non, ça on verra pas ça avec Gooley, mais il faut dire que son jeu offensif depuis l'année passée a amélioré beaucoup. Et tu sais, il a marqué quelques buts pendant la pré-saison, je comprends, mais juste en général, ses capacités de transition, ses passes en zone offensive, et le fait qu'il soit plus actif offensivement dans la zone offensive, il était toujours bon en transition, mais c'est son niveau d'activité en zone offensive que lui a pris, il était conscient du fait que c'était un peu une faiblesse dans son jeu, puis pendant toute sa saison en junior, à Prince Albert et à Edmonton. C'est quelque chose qu'il a essayé de travailler dessus, de juste avoir une mentalité plus offensive en zone offensive, puis on peut déjà le voir. Mais je pense que plus tard dans la saison, on va le voir encore plus, une fois qu'il prend un peu de confiance. C'est quelque chose qu'on risque de voir au fur et à mesure.
OK, si on regarde une prédiction d'ensemble qui concerne toute l'équipe et qui est sûrement... D'un gros intérêt pour les amateurs du Canadien, c'est à quel rang l'équipe va-t-elle finir au classement général de la Ligue nationale. Mm-hmm. Donc, est-ce qu'il y aurait une incidence directe sur ses chances au tirage au sort? Alors, sur 32 équipes, où vois-tu le Canadien terminer?
Ben, tu sais, il y a un certain processus d'élimination que tu peux utiliser dans cette question-là. Quelles équipes sont pires que le Canadien? Mm-hmm. Il y a l'Arizona et Chicago, ça c'est certain. Ils sont dans une classe à part. Ça s'appelle la division Tank. Ouais. Ça, le Canadien n'est pas là-dedans. Là, il y a Philadelphie et Seattle qui m'intrigue. Alors, et San Jose, qui est dans comme ces trois équipes-là. Tu sais, j'ai comme l'impression, écoute, le Canadien, la brigade en défense, sont pas forts, mais leur groupe d'attaquants est quand même pas pire. Tu sais, c'est comme, ils vont présenter certains problèmes pour certaines équipes certains soirs. Tu sais, ils devraient être capables de marquer des buts collectivement avec le groupe d'attaquants qu'ils ont. Alors moi, je pense que ils vont terminer avant ces trois équipes-là que j'ai mentionnées. San Jose, Seattle et Philadelphie. Ce qui nous rend au 26e rang. Alors moi, j'irais avec 25. Je pense que les fans seraient prêts, les partisans seraient peut-être un peu déçus qu'ils soient tellement loin. Ce qui leur donnait les 7e meilleures chances dans la loterie du repêchage. Mais moi, j'irais avec 25e au classement général.
OK. Moi, je vais y aller un petit peu plus bas que ça. En fait, je suis pas sûr si ton calcul fonctionne avec le nombre d'équipes que tu as retranché. Mais
ce qui est fort possible, parce que Matt, c'est jamais ma force, là. Mais ouais, j'ai compté 5 équipes. Arizona, Chicago, Seattle, San Jose, Philadelphie. Ces 5 équipes-là vont de 32, 31, 30, 29, 28. Ah, c'est vrai. Alors, ça serait 27e, mais je pense que le Canadien va devancer deux autres équipes, mais je peux pas les identifier. Alors, moi, j'y vais avec 25.
OK.
Ouais.
Ben moi, je veux dire qu'ils vont finir 28e.
OK.
Donc, plus bas. Je pense que, on s'entend, Chicago et Arizona vont finir derrière eux. Je pense que les deux autres équipes qui vont finir derrière le Canadien, ça va être San Jose et puis Philadelphie. Philadelphie aurait le potentiel pour être une meilleure équipe que le Canadien, je pense, mais ils sont tellement éprouvés par les blessures, c'est problématique pour eux. L'absence de Sean Couturier fait extrêmement mal. Donc, ça va... Puis, ils n'auront pas Ryan Ellis cette année. Lui, c'en est un autre dont la carrière semble y avoir un nuage noir au-dessus de la suite de sa carrière. Beaucoup de travail qui attend John Tortorella. D'ailleurs, j'ai vu un clip sur Twitter. Il y a quelqu'un qui faisait une interview avec John Tortorella, puis il a dit, est-ce que tu as trouvé quelque chose? Quel élément? Y a-tu quelque chose dans ton équipe que tu vois sur lequel vous pouvez bâtir en disant, OK, on a ça, et ça, on peut construire notre identité autour de cet élément-là? Et Tortorella a fait, non. Non, j'en ai. Pour l'instant, j'ai rien trouvé encore. Il reste beaucoup de travail à faire. Ouais. Fait que eux, je pense que Philadelphie, ça va être une équipe et les Sharks de San Jose, ça va être l'autre. Par contre, j'ai l'impression que le Kraken de Seattle va afficher une certaine amélioration par rapport à l'année dernière qui va être suffisante pour que cette équipe-là passe devant le Canadien. Ils auront vraisemblablement, de la manière qu'ils sont construits, ils vont avoir moins de joueurs à vendre à la date limite des transactions également. Ils ont ajouté un jeune, Matthew Beniers, qui est voué un grand avenir. Ils ont ajouté Oliver Bjorkstrand et André Burakovsky. Ça, on dit que le Canadien a une meilleure attaque que l'année dernière, mais ces deux additions-là pour l'attaque du Kraken, ça fait une différence. Je pense que Shane Wright devrait montrer qu'il est prêt pour la Ligue nationale également. Fait que, tu sais, il y a eu des gars comme Yanni Gourde, etc., Jordan Eberle, qui ont vraiment levé de la fonte pour eux autres la saison dernière, mais ça ne reposera plus systématiquement sur leurs épaules. Donc, je pense que... Et je regarde toutes les autres équipes, à mon sens, sont plus fortes que le Canadien. Juste dans la section... l'association de l'Est... Il y a vraiment juste les Flyers qui peuvent rivaliser avec le Canadien. Tu regardes toutes les autres formations, du moins sur papier. Il faudrait vraiment que le Canadien ait surperforme par rapport aux attentes et qu'il y ait un effet Saint-Louis qui se prolonge très, très longtemps pour que cette équipe-là, finalement, ait autre chose que le destin qu'on lui prévoit. Alors moi, je pense que 28e, ça m'apparaît judicieux.
Bon, parfait. Alors, dans le fond... Les attentes sont pas très élevées. Alors, si moi j'y vais à 25, puis je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui vont dire « Es-tu malade, 25? De quoi tu parles? 25, c'est beaucoup trop haut. » Alors, C'est ça, c'est moi qui est un peu audace avec ma prédiction en disant 25e, alors on verra, mais peu importe, le Canadien devrait en principe être en bonne position pour repêcher quelqu'un, un joueur d'impact dans le repêchage, la riche cuvée de 2023. Alors, c'est ça, on verra si nos prédictions deviennent réalité, mais peu importe, je pense que si les matchs du Canadien ressemblent à ce qu'on a vu mercredi soir, peu importe les résultats, je pense que le niveau de divertissement cette saison devrait être plus élevé définitivement de la saison passée. Mais je pense que l'organisation, au total, veut jouer un genre de hockey qui est le fun. Et particulièrement le coach, Martin Saint-Louis. Alors, ce qu'on a vu mercredi, ça suggère qu'effectivement, ça va être du hockey qui est le fun à voir. Alors ça va aider. Même si nos prédictions de 25e ou 28e se réalisent, au moins on va voir du hockey qui est divertissant à regarder.
Bon, ben voilà, ben voyons, on verra bien qu'est-ce qu'il en ressort. On vous retrouve dès lundi prochain pour, comme on vous le disait, pour The Athletic Support. Alors, on va terminer là-dessus. Merci, Arpin. Et puis, passez un beau week-end.
Oui, merci tout le monde. Puis on se revoit lundi.
OK, bye-bye.